Charles Durand, un zarboutant sur la première.
Charles Durand, j'habite au Brûlé. Je suis né le 28 mars 1942.
L'histoire de Charles est liée à celle de l'INSEE. Mais avant de parler de l'INSEE, de la création de l'INSEE en 1966, à La Réunion, on va peut-être parler un peu de votre enfance, Charles Durand. Vous êtes né à Paris.
Oui, je suis né à Paris, Paris 14e, plus précisément à la clinique Baudeloc, qui était vraiment une usine à enfants à l'époque. C'est-à-dire que c'était un des endroits, une des communes de la métropole et de la France en général, où il y a eu le plus de naissances, et en 42, il n'y avait pas beaucoup de naissances. Alors pourquoi je suis né? C'est ma mère qui m'a confié ça à la fin de sa vie. C'est-à-dire que mon père avait des ambitions de célébrité musicale, il était dans l'armée, mais bon. Et donc, il ne voulait pas d'enfants, c'était très, très clair. Ma mère en voulait évidemment, et de son retour de captivité, puisqu'il a été fait prisonnier à un moment au début de la guerre, comme il était musicien, on l'a libéré facilement. Et bon, ma mère et mon père se sont retrouvés, et disons, maman n'a pas eu trop de difficultés à le convaincre de faire un enfant, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu naître.
Avec un autre frère, beaucoup plus jeune que vous.
Oui, mon frère, lui, j'ai tendance à dire c'est un enfant de la libération, puisqu'il est né en 45, début 45, à peu près 6-8 mois après la libération, quoi. Donc des événements finalement extérieurs, quoi. La première image de ma jeunesse, ça remonte à... Je venais de rentrer à l'école, au cours préparatoire, et la première image que j'ai gardée, c'est la maîtresse qui se retournait et fonçait sur moi avec une règle pour me taper sur les doigts parce que j'étais gaucher. Donc il faut dire qu'à l'époque, on écrivait avec des plumes, il n'y avait pas de stylo bille, etc. Et donc l'usage de la main gauche faisait qu'on faisait plein de saletés sur les cahiers, quoi. Donc d'où la sévérité de la maîtresse, mais c'est vraiment ma première image de jeunesse, quoi. Bon, ça ne s'est pas résolu très rapidement parce qu'il a fallu attendre l'arrivée, disons, des stylos à billes au milieu des années 50, je pense. Mais enfin, j'ai fait mon école, la suite de l'école primaire à Marrakech, de 1948 à 1952. Après le début du collège à Constantine, de 52 à 55. Et ensuite, la fin du collège à Verdun, de 55 à 60. En 61-62, j'ai essayé de passer le bac à Épinal. Puis après, à Nancy, j'ai continué mes études supérieures catastrophiques. J'étais vraiment nul, plus que nul. Et à ce moment-là, mon père m'a dit, « Mon cher, tu vas avoir 21 ans, comme tu ne fais rien du tout, débrouille-toi à partir de... Il faut que tu trouves un travail par toi-même. » Donc, du coup, j'ai cherché quoi faire et j'ai trouvé un concours d'entrée à l'INSEE où on n'exigeait que le bac. Et en fait, les épreuves n'étaient pas infranchissables puisque au niveau national, il y avait 60 candidats, 30 reçus à l'écrit et 15 à l'oral.
Si vous parlez de tous ces endroits, c'est que votre papa a fait une carrière militaire.
Oui, mon père était dans l'armée, il était chef de musique dans l'armée. Donc, comme tous les militaires, il avait vocation à bouger régulièrement. Donc, à la fin de la guerre, donc, il était revenu à Paris, et il était muté au Maroc. À peine arrivé à Marrakech, son régiment de tirailleurs marocains a été muté en Indochine, donc lui est parti en Indochine, mais les familles n'étaient plus autorisées à suivre à ce moment-là, et donc ma mère et mon frère, on est restés à Marrakech pendant 3 ans. Et ensuite, il a été, une fois là, il est revenu d'Indochine, il était muté à Constantine, et à Constantine, il était dans un régiment de tirailleurs algériens, et la guerre, enfin, qu'on a mis longtemps à appeler la guerre d'ailleurs, a commencé en novembre 1954, et à ce moment-là, il a demandé à prendre sa retraite parce qu'il avait 2 enfants à charge. Donc il a pu prendre sa retraite et on s'est retrouvé à Verdun, où son régiment a été muté ensuite par la suite. Mais évidemment, des tirailleurs algériens pour en face de la guérilla algérienne, c'était pas terrible, quoi. Donc on comprend bien que les tirailleurs algériens ont été mutés en métropole et ça devait faire partie de ce qu'on appelle maintenant les harkis, je pense.
Entre votre naissance en 1942, la fin de la guerre en 1945, votre passage à l'école primaire, les études, s'il fallait garder quelques images, quelques souvenirs, vous parliez tout à l'heure de l'anecdote avec la main gauche. Est-ce qu'il y a d'autres images, d'autres flashs comme ça de votre enfance ?
Oui, une image qui m'avait vraiment choqué, c'était, ça se passait disons, dans la banlieue de Constantine. Ça devait être en 1955 à ce moment-là. Et on habitait près de la gare de la banlieue. Et moi, je prenais le bus pour rentrer de l'école. Et un après-midi comme ça, je vois un militaire, certainement un appelé du contingent, qui se tenait le ventre en hurlant, et il venait de s'être fait ouvrir le ventre par un félaga, je pense. Donc il hurlait, ça m'avait vraiment... en plus, assez curieusement, quand on est gamin comme ça, on n'a pas peur. Ben, je regardais le spectacle, entre guillemets, avec horreur, bien sûr. Mais je regardais sans avoir peur, quoi. Ça, c'est assez surprenant. Oui, Constantine, c'est, disons, en 1955, la guerre a commencé le 1er novembre 1954 en Algérie. Et donc, nous, on a quitté l'Algérie en juillet 1955. Donc, ça devait être dans les mars-avril 1955, en gros, quoi, l'incident que je décris, quoi. Un incident choquant. Sinon, quand on était en Algérie, comme ça, on partait de Constantine, on allait sur la côte, vers le nord, vers Beaune, Philippeville, qui ont changé de nom maintenant. Et mon père avait pu acheter une 4 chevaux. Et donc, régulièrement, on s'arrêtait en route pour casser la croûte, dans un soi-disant désert d'habitat. À peine on s'était arrêté, il y avait une vingtaine de gamins qui étaient autour de nous pour demander... Soit de l'argent, soit de la nourriture, quoi. C'était assez surprenant de voir des gens surgir de n'importe où. Chose que j'ai retrouvée quand je me suis retrouvé à Kinshasa. Il y avait le même phénomène, ce qui se passait dans la jungle la plus profonde. Vous vous arrêtez, c'est vide. 5 minutes après, il y avait des gens qui allaient... En Kinshasa, c'était pour nous dépanner quand on s'était enlisé dans la boue.
Quand on bouge comme ça, on garde quand même de très bons souvenirs de ces pays.
Oui, en tous les cas, ce qui est efficace, c'est que ça oblige à s'adapter. On n'a pas le choix de faire la fine bouche, il faut faire avec. Donc c'est sûr que, par exemple, à Constantine, au collège, on était mélangés, si entre guillemets. Il y avait plusieurs catégories de population. Alors je vous passe la hiérarchie. Il y avait d'abord les Européens comme moi, blancs, évidemment, forcément les plus intelligents et tout. Ensuite, il y avait les pieds noirs, puis les juifs, puis les arabes émancipés, et puis finalement les bougnoules, quoi. Donc il y avait toute cette gradation. Et alors, je me souviens bien que mon père nous avait retrouvés au Maroc, et donc en arrivant en Algérie, à Constantine, avec ce que je viens de décrire sur la... répartition des catégories sociales. Moi, je me suis retrouvé en sixième, mais j'ai complètement loupé ma sixième au grand désespoir de mon père, puisque j'étais le dernier de la classe, dernière tous les pieds noirs et autres juifs et arabes, quoi. Donc privé de jouets de Noël, etc., quoi. Mais je pense, je ne le savais pas à l'époque, puisque les circonstances de ma naissance, je ne les ai connues que bien après, mais je pense que déjà j'avais des relations très difficiles avec mon père, qui se sont aggravées par la suite d'ailleurs, mais déjà en sixième j'avais marqué le coup, parce qu'on venait de passer 3 ans tranquille à Marrakech sans le père, qui se contentait d'envoyer des subsides pour que la famille vive, et quand il a débarqué ça s'est un peu mal passé, parce que là j'ai dû, être un peu plus marcher droit, quoi, pour faire court. J'ai dû marcher droit, ça ne m'a pas vraiment plu, et donc inconsciemment, ben, j'ai complètement loupé ma sixième. Sans compter qu'il y avait aussi le fait que c'était aussi un changement d'univers. Je passais du Maroc en Algérie avec d'autres. Voilà, vous voyez, c'était quand même. Ça faisait beaucoup de choses à la fois, quoi. Mais bon, j'étais devenu un peu fataliste parce que je m'étais dit en moi-même, bon, les jouets, ils ont été achetés, je les aurai un jour ou l'autre. Effectivement, 6 mois après, je les ai eus.
Charles Durand sur la première.
Quand on était au Maroc, en arrivant, je me suis retrouvé dans une école, disons, comment on peut dire, multiraciale. Je trouve que c'est un peu court. Il y avait des petits Arabes et des petits Blancs. Et puis, quand mon père est parti en Indochine, on est donc resté à Marrakech, mais on m'a mis dans une école où il n'y avait que des enfants de militaires, que des Blancs, quoi. Donc il y avait une sorte d'apartheid. Et d'ailleurs, à Marrakech, la ville était, disons, séparée en plusieurs quartiers. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais il y avait le quartier européen, le quartier militaire, les Juifs, la Médina, etc. Enfin, ouais, c'était quand même très séparé. Mais bon, cela dit, il y avait aussi, près des militaires, il y avait des gens d'Afrique noire. Donc à l'âge de 6 ans, j'avais déjà vu des Blancs, des Noirs. Donc quand je suis arrivé en métropole, bien plus tard, à l'âge de 15 ans, ben ça, moi, les Noirs et des Arabes, j'en avais vu autant que je voulais. Par contre, les copains, ils ouvraient les grands yeux, quoi. Ils découvraient qu'il y avait des gens qui n'avaient pas la même couleur, quoi. Donc, le fait d'avoir beaucoup bougé comme ça, ça aide à s'adapter un peu partout, quoi.
Mais est-ce que les gens se mélangeaient, Charles ?
Non, 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 non. Ou alors, exceptionnellement. Déjà, à l'époque, quand même, le fait religieux était quand même assez beaucoup plus important que maintenant. Donc des catholiques ou des chrétiens qui se mélangeaient avec des juifs ou des musulmans, ça se faisait pas du tout. Ça ne se fait guère non plus, hein, je pense.
Charles Durand, si je vous dis le 14 décembre 1965.
Oui, le 14 décembre 1965, c'est une date un peu mémorable.
C'est l'émotion, aucun souci. Non, vous êtes pris par l'émotion, mais c'est normal. Parce que là, vous revoyez les images. Forcément, prenez votre temps, prenez un verre d'eau. Tenez, je vous laisse un verre d'eau. On va prendre un peu d'eau. J'en vois souvent, d'ailleurs, avec tous les invités que je rencontre. Il y a de l'émotion, parce que... On se replonge 30-40 ans en arrière, et c'est pas rien, Charles.
Mmh. C'est pas rien.
Oui, donc le 14 décembre 65, c'est mémorable, parce que c'est la première fois où je mets les pieds à La Réunion. Et donc, les pieds, en descendant du Super Constellation, l'avion hélice, et pour rentrer sur Saint-Denis, il faisait nuit. Pas d'éclairage public, une petite pluie fine, je me souviens, une petite pluie fine. C'était sinistre à mourir, le 14 décembre.
Madina prête à moi un temps près de la loupe, elle est morte avec tout le café. Hier soir par la mesquine, a débarqué toutes ses invités. C'est la guide dans le temps de couvert, la main de la raquette est fleur panée. Madina brille en calvasse, tous les qu'on y va sommeiller. Côté Madina, mais des pères simples, un grain de sucre, la fin parée. T'as l'air la boutique va fermer, bonne la vasille aussi. Côté Madina, mais des pères simples, un grain de sucre, la fin parée. T'as l'air la boutique va fermer, bonne la vasille aussi. Tu mets des airs de matin dans nos couvertures, l'endroit. Madame la loupe avec la râle, la casse au pouce-nez. Papa l'a parti, il croit que la case l'a mis manger. Dans le parc, nana la paix, nana joie et nana joie. Au thé Madina, mais soleil à l'été, préparaté pour nous démarrer. Mon sabot fragile, le petit poney, la flamme va répéter. Au thé Madina, mais soleil à l'été, préparaté pour nous démarrer. Mon sabot fragile, le petit poney, la flamme va répéter. Par la ribordage de la mer, les hommes de garde la présentaient.
patate comme du couscous, le souk à moi l'a transporté. Les amis, la fille dressée, il reste portaise pour assister. Vous Laurent, me la raque, nana de quoi vous êtes arrosé. Votez ma dynamique, voilà la finie.
Charles Durand, un zarboutant sur la première.
Moi, je venais faire mon service militaire en dehors de la caserne, donc au titre de l'aide technique. On m'avait désigné comme, comme VAT, hein, comme volontaire d'aide technique, mis au service du préfet pour monter l'INSEE. Quoi. Mais alors, je pensais que j'arrivais dans une structure déjà installée. C'est là où ça a été un peu le 14 décembre. Là, ça a été... coup de poing dans l'estomac, parce que le cadre de l'INSEE qui est venu m'accueillir à Gilo me dit, mais Durand, c'est toi le patron, à partir de demain. Ah bon? Alors là, je ne m'y attendais absolument pas. Je pensais que j'arrivais dans une petite direction régionale de 20 ou 30 personnes, que j'allais m'intégrer tranquillement. Comme j'étais militaire, qu'on allait me fiche la paix, etc. Mais là, c'était la surprise, quoi. Moi, je n'avais pas du tout le profil, quand j'étais à l'INSEE, je n'avais pas le profil de prendre la direction d'une équipe ou quoi que ce soit. J'avais le profil d'être un brave type qui ferait son boulot dans son coin tranquille, mais qui n'embêterait personne, quoi. Jamais j'aurais imaginé un seul instant. Enfin, l'INSEE, il ne pouvait pas. Il connaissait peut-être pas beaucoup, mais jamais il serait venu à l'idée de quelqu'un qui me connaissait de me nommer responsable de quelque chose quelque part, quoi.
Vous avez accepté quand le cadre de l'INSEE vous accueille à Gilo, à l'aéroport, ce 14 décembre 1965, et lorsqu'il vous dit « Durand, c'est toi le patron ?»
Oui, ben moi, je prends l'attitude du deuxième classe qui répond « Oui, chef, bien chef, garde à vous. On y va. Ben, » ce qu'il y a, c'est que, bon, ça ne m'a pas empêché de dormir, c'est vrai, la première nuit. Mais bon, j'ai quand même vite compris que le collègue qui était là, comme il venait de Martinique, il m'a expliqué qu'il venait de Martinique et qu'il venait de monter l'INSEE à la Martinique, ben, j'ai vite compris que je pourrais m'appuyer sur lui. D'ailleurs, ça s'est vite concrétisé parce que à l'époque, il y avait une 4L de service qui était disponible pour le cadre qui était de passage, comme ça. Et alors, moi, je ne connaissais pas du tout les habitudes dans le domaine administratif. Deux jours après, on va à la SAMAT qui représentait Renault et il signe un bon de commande pour une deuxième 4L. Quand on a pris livraison quelques jours après, donc moi j'avais ma voiture et lui aussi. Et donc il écrit ensuite, parce que tout se faisait par écrit à l'époque, on n'utilisait ni le téléphone, ni fax, ni rien du tout. Donc il écrit à la direction générale en disant, bon ben voilà, il me faut 500 000 francs CFA pour payer la 4L, voilà. Donc ça a mis du temps, mais ils ont quand même envoyé l'argent en disant, il ne faut plus recommencer comme ça, il faut avoir l'accord préalable.
L'INSEE a été créé en 1946 en métropole. 20 ans après, l'INSEE à La Réunion, donc vous serez le premier directeur. Et nous sommes le 1er janvier 1966.
Oui, alors en fait, le 1er janvier 1966, il ne se passe rien de spécial. Mais je savais donc par le collègue qui était déjà là que ça allait arriver, qu'on allait recevoir une lettre me nommant directeur et mettant des crédits à ma disposition.
Et vous allez surtout travailler avec 5 personnes au départ.
Oui, alors les 5 personnes, je ne me suis pas gêné, j'ai commencé par embaucher ma première femme qui était venue avec moi. Il faut le faire, quand on imagine ça avec le recul, c'est invraisemblable.
Quelle va être la première étude de l'INSEE, Charles ?
Première étude, disons, c'est en fait, c'est ce qui concerne l'évolution des prix, hein, l'évolution des prix, l'indice de prix. Il faut savoir qu'à l'époque, la préfecture faisait ce travail de brique de broc, hein, comme il pouvait. Les autres n'étaient pas vraiment spécialistes, hein, donc ils bricolaient un petit peu. Et l'indice de prix à l'époque On avait 33 articles.
Lesquels ?
Ah ben, alors pour le manger, il disait on avait riz ordinaire, riz de luxe, snook, drill kaki pour l'habillement, casse coloniale, il était dans l'indice. Il n'avait plus de casque colonial dans la rue, mais il était toujours dans l'indice.
Le casque colonial était dans, dans l'indice des prix ?
Ça même.
Et combien il coûtait ce casque ?
Ah ben ça, je ne m'en rappelais. Mais le prix ne bougeait plus. Ben oui.
Le casque colonial était dans l'indice pour le calcul, donc pour l'enquête des ménages,
ouais.
Pour le relevé de prix, hein.
Voilà.
C'est ça.
Parce que c'était comme l'INSEE n'était pas là, les VAT étaient censés connaître un petit peu la statistique. Ce n'étaient pas forcément des gens de l'INSEE, mais c'était des gens qui connaissaient un peu la statistique et bricolaient, quoi. Voilà. Le pétrole lampant aussi, il y avait les bougies. Mais enfin, une affaire complètement dépassée. Donc il était urgent de, disons, de rénover, de remettre ça à flot, au niveau. Parce que bon, la préfecture, il en foutait, mais les élus, ils regardaient ça du mauvais œil, parce que ça causait préjudice, on comprend, si l'indice n'est pas bon. Aussi où bas ça pour calculer les crédits, etc., elle n'est pas bon du tout. Donc les élus ont fait pression. En particulier Marcel Cerneau, c'est que lui qui a intervenu beaucoup au niveau de l'Assemblée nationale pour exiger que l'INSEE installe à La Réunion, parce qu'il était déjà installé Martinique-Guadeloupe. Guyane, non, pas Guyane, mais à Réunion, n'avait que Martinique-Guadeloupe. Donc la Réunion, il défendait un peu assez mal. Ses besoins. C'était quand même des employés de la préfecture qui payaient ça, qui faisaient ça et qui étaient payés pour ça. Mais bon, à l'INSEE, nous n'aimons pas trop que ce soit les autres qui font le travail à notre place, parce que si c'est la préfecture qui calcule, qui relève les prix et tout ça, il ne garantit pas que le geste n'est pas bricolé, quoi. Il y a toujours un risque, hein. Et ça, il existe partout, hein, que ce soit à La Réunion ou en métropole. En métropole, on avait eu des affaires, je ne sais pas si les gens rappellent peut-être pas ça, mais en métropole, il se souvient bien, à l'INSEE en tous les cas, il se souvient que le gouvernement avait bloqué le prix d'une sorte de ticket de métro qui était vendu presque rarement, comme ça il pouvait jouer dessus, il pouvait augmenter le prix sans que ça augmente l'indice, quoi. Là, c'est la tentation des politiques de manipuler un petit peu les chiffres, donc l'INSEE doit être vigilant là-dessus. Ça, c'est le fascicule de premier trimestre 67. Alors, l'affaire qui est comique, c'est que ça m'a pas gagné de trouver ça ici. M'a fait venir ça par la Bibliothèque nationale de France.
Voilà, c'est le bulletin sur lequel vous avez travaillé.
On donnait les chiffres pour La Réunion. C'est-à-dire que c'est un bulletin qui concerne tout l'outre-mer, les 4 DOM.
Et les territoires. Alors,
il y a riz de table. Il faudrait que je mette mes lunettes là, parce que là.
Alors, je vous dis, le riz de table que je regarde, le riz de table était à 60. 60.
Un franc 20. Oui. Il faudrait voir combien c'était en métropole à ce moment-là. Parce que, bon.
Vous avez fait des études pour l'INSEE donc, pendant toutes ces années, jusqu'à en tout cas votre départ en 1985, c'est ça. Pourquoi vous êtes resté autant d'années ici en tant que fonctionnaire et directeur de l'INSEE?
Bon, disons, au départ, je correspondais à un besoin de l'INSEE d'avoir quelqu'un qui est responsable sur place. Donc, mais j'aurais très bien pu dire qu'à l'issue de mon service militaire, je rentre dans mes foyers en métropole. Bon, moi, de mon côté, j'étais prêt à rester. D'une part, le caractère agréable de la vie sur place, mon acceptation. Par les créoles des oreilles que j'étais, ça c'est très important. Et puis aussi, soyons honnêtes, la paye. en tant que fonctionnaire de l'État, à l'époque, on gagnait pratiquement le double de la métropole. On avait aussi des primes, à plus savoir qu'en faire. Donc c'était vraiment, Byzance, je ne sais pas si on peut dire.
En fait, ça représentait le paradis pour un fonctionnaire.
Un fonctionnaire.
C'était ça.
C'était pas très connu d'ailleurs. On m'avait pas prévenu en métropole qu'il y avait ce genre d'avantages, etc. J'ai découvert ça sur place. Bah, j'ai trouvé que vivant dans un pays agréable, c'était pas mal d'être bien payé. Hein. Bon, d'un autre côté, c'était assez agréable aussi, gratifiant, de monter de toute pièce un service, quoi, si vous voulez. Et là, je dois dire que les collègues créoles m'ont beaucoup aidé à... Ils m'ont formé, finalement.
D'accord.
Et réciproquement, c'est-à-dire que il s'est fait que pendant les premières années, en tous les cas, on s'est auto-formé les uns les autres. Donc, il faut dire que j'avais la main complètement libre sur le recrutement. Je ne sais pas si vous imaginez le pouvoir détenu par le type qui peut embaucher, débaucher, etc. Enfin, c'est sans concours, sans rien. Enfin, où j'organisais des concours sur lesquels j'avais complètement la main.
Vous aviez les pleins pouvoirs.
Et d'ailleurs, par moments, c'était un peu inconfortable, d'ailleurs, parce que je me souviens avoir reçu une lettre de mon responsable direct de Paris, disant « Monsieur Durand, voilà, j'ai trouvé 5 millions de francs CFA sur un fonds FIDOM, je vous les envoie, faites une enquête sur l'emploi. » Des points barres. Et donc, on monte une enquête sur l'emploi, on recrute des enquêteurs, on fait des questionnaires, etc. etc.
Entre-temps, il y a eu le mariage avec une rayonnaise.
Oui, en 73. Oui, entre-temps, j'avais marqué mon intérêt et mon appétence pour la Réunion en préférant prendre mes congés sur place, parce qu'on avait droit à des congés assez conséquents.
Tous les camps ?
Tous les deux ans, je crois que c'était 4 mois tous les deux ans, enfin ça a varié dans le plan ce truc-là, mais c'était assez consistant. Ben, j'ai dit non, il préfère prendre sur place. Donc j'ai mes congés auxquels j'avais droit pour aller en métropole, voyage payé, je préférais rester sur place.
Vous avez 3 enfants, 3 filles.
Oui, 3 filles. Oui.
Alors parlez-nous de votre relation avec le Brûlé. Parce que vous habitez le Brûlé, c'est sur les hauteurs de Saint-Denis, on est à peu près à 900 mètres, 1000 mètres d'altitude. Pourquoi vous avez décidé d'habiter ici ?
Bon, c'est une question de climat finalement, de température. Je supportais assez difficilement la chaleur, d'autant que c'était assez coûteux et difficile de se faire climatiser. Enfin, le bureau était un peu climatisé, un peu. Hein. Par contre, j'habitais à la chaumière, et là, c'était pas du tout climatisé, et les étés étaient plutôt chauds. Et donc, pour prendre le frais, on a loué, c'était avec ma première femme, ça, hein, on a loué une case au Brûlé, pour passer 2 mois, et puis finalement, je m'y suis bien plu. J'y suis encore, si on peut dire.
Et vous habitez encore. Alors,
vous voulez, moi, c'est ma terre d'attache.
Mais à un moment donné, il a fallu rentrer.
Oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que dans le cadre de la mobilité des hauts cadres, donc c'était difficile de rester sur place. Et à Paris, on m'a bien fait comprendre que soit je restais sur place, et à ce moment-là, je deviendrais... second couteau, enfin, sous-fifre, enfin, ou bien je rentrais et j'aurais une promotion. Donc il y avait aussi une carotte de l'autre côté. Il fallait, parce que pour consentir de quitter La Réunion pour habiter à Rouen, c'était quand même assez difficile.
Je me dis, là, en vous écoutant, que les... En fait, on savait appâter un peu le fonctionnaire, hein. C'était ça. Hein.
Oui, c'est-à-dire qu'au point de vue salaire, quand je me suis retrouvé à Rouen, il y a eu une baisse de pouvoir d'achat sensible. Hein. Parce que comme ma femme est dans la fonction publique aussi, Bon, il a fallu serrer les ceintures. Hein. Ah ben oui, il n'y a plus d'indexation, etc. Hein.
Vous partez en Afrique, à Kinshasa. Vous allez dans le Pacifique Sud, à Tahiti. Vous retournez au plan national, vous retournez sur le territoire national, Bordeaux. Mmh. Vous terminez votre carrière à Paris. Et pourquoi vous décidez de tout quitter là-bas et de venir ici?
C'est un peu d'actualité. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis à Paris. Je suis né en 1942, le 28 mars 1942. Et donc, le 28 mars 2002, j'aurai 60 ans. J'ai eu 60 ans. Donc, j'étais prêt. Hein, un an avant, j'avais déjà prévenu que... Alors, j'étais prêt... je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire que j'étais prêt à revenir à l'INSEE Réunion. Non, parce que ça aurait été très difficile. 20 ans après, 17 ans après, c'était... Les gens avaient gardé une image de moi, et réciproquement, on n'aurait pas fait l'affaire. Donc j'ai attendu ma retraite, quoi. J'ai attendu ma retraite. Et donc, j'ai pris ma retraite... j'ai prévu ma retraite le 28 mars 2002, avec les congés un peu... Je pouvais partir un petit peu avant. Sauf que ma maison... que j'avais gardé au brûlé, elle a trouvé le moyen de brûler. Juste avant de prendre ma retraite, en décembre 2001, je me demandais, la case que j'avais, c'était une ancienne case, bois sous tôle, qui avait besoin de beaucoup de réparations. Et je me demandais, est-ce que je commence par la cuisine, par la salle de bain, par le séjour, etc. Et j'ai eu la réponse. Il a fallu tout reconstruire. Donc là, c'est vrai que ça m'a posé moins de questions. Il a fallu prendre les choses en main, jouer l'assurance, trouver un entrepreneur. Donc j'ai pris une case, je fais un peu de pub, hein, Bourbon-Bois.
Voilà, donc, la maison Tommy.
Ça même.
La maison de Maurice Tommy.
Oui, c'est la suite, quoi, l'héritière. Parce que c'est quand même assez... quand même plus confortable que la maison Tommy.
Et donc, 17 ans après, ce retour à La Réunion pour prendre votre retraite, la société a évolué. La Réunion a changé.
Oui, La Réunion a changé. Non, on n'a plus rien à voir, quoi. Plus grand-chose à voir. La mentalité l'a complètement changé. Les gens sont devenus beaucoup plus matérialistes. Quand ça y intéresse les créoles maintenant, c'est remplir son caddie le week-end, faire un petit pique-nique, un petit continuité territoriale. C'est ça qui intéresse Azote, et c'est dommage parce que c'est la Réunion qui doit intéresser Azote. Il faut pas toujours compter sur la maman nourricière, et ça c'est pas très bon, quoi. Mais c'est difficile, hein, de changer les mentalités. Puis alors l'attrait pour la consommation, les entreprises ont trouvé la faille, quoi, de tenter les gens. Enfin, c'est vraiment, on est dans la consommation totale, presque plus qu'en métropole, quoi. Enfin, mais c'est un peu dommage parce que on perd un peu de qualité de vie, quoi. On a du mal à... Encore qu'au brûlé, c'est pas tout à fait pareil, parce que on est resté quand même proches les uns des autres, si vous voulez, hein. On se connaît. Je vois, je connais en gros à peu près 5 générations de gens qui sont au brûlé, quoi.
Charles Durand, merci. Merci beaucoup, hein, pour l'entretien.
Oui, il y avait pas mal d'émotions.
Si je vous dis Zarboutan, alors vous pensez à quoi?
Disons, Zarboutan, les nécessaires, mais les pas trop solides. Il faut entretenir Azote. La Réunion l'a besoin. Bon, peu Zarboutan, pas que moi, bien sûr, mais une petite chose. Mais quand on entend les gens que vous l'avez déjà interrogé, je crois qu'il est vraiment important. Garde ça en mémoire. C'est l'avenir de la Réunion qu'il est là. écoute vos anciens. Et surtout, n'hésite pas à parler créole, c'est indispensable. M'y rêve d'une chose, hein, une seule chose, m'y rêve. Le préfet fait un discours en créole. Ça m'y rêve.
Charles Durand, un zarboutant sur la première.